Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.
Bonjour, bienvenue sur la Wikiradio du CNRS. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous allons parler de mathématiques avec des invités tout à fait spéciaux aussi. Arthur Avila, vous venez de recevoir la médaille Fields cette année, en 2014. Cédric Villani, vous l'avez également reçu en 2010. Et Christophe Sorger, vous êtes le directeur de l'Institut des mathématiques et de leurs interactions du CNRS, et c'est vous qui aurez le privilège de poser les questions à nos invités.
Bonjour, donc merci pour l'introduction. Alors, effectivement, l'actualité pour les mathématiques en ce moment sont grandes, parce que tous les 4 ans, nous avons donc notre congrès international. C'est un congrès qui est très important pour les mathématiciens. C'est en quelque sorte la grande messe pendant laquelle nous présentons nos avancées des 4 dernières années, nous expliquons quels sont nos projets futurs et que surtout nous échangeons entre nous pour avancer les mathématiques qui sont notre science et sur laquelle la communauté des mathématiciens travaille ensemble pour avancer. Alors une autre partie de l'actualité, c'est le 20 ans de l'Institut Poincaré. Avec ça, j'ai dit tout de suite quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, parce que les 20 ans de l'Institut Poincaré, ce sont les nouvelles 20 ans, parce que avant, l'Institut Henri Poincaré a été en fait fondé après la Première Guerre mondiale sur une vraie impulsion venant de deux mathématiciens, d'un côté Émile Borel en France et de l'autre côté Birkhoff aux États-Unis, qui ont réussi à persuader des mécènes américaines, à savoir la Fondation Rockefeller et français, donc pour Edmond de Rothschild, pour construire un bâtiment qui deviendra le bâtiment où l'Institut Henri Poincaré est hébergé, et dont le premier directeur était effectivement Émile Borel. Donc nous sommes très contents d'être avec Cédric Villani, qui lui est le directeur actuel et qui nous expliquera un tout petit peu plus qu'est-ce que c'est cet institut, qu'est-ce qu'on y fait et comment il fait de la recherche et pourquoi on parle des 20 ans de l'Institut Poincaré maintenant, alors qu'il avait été inauguré le 17 novembre 1928, la première fois. Et donc, pour revenir, parce qu'on va d'abord, avant de parler de l'Institut Henri Poincaré, on va parler des médailles Fields, et donc à nouveau du congrès des mathématiciens qui a eu lieu tous les 4 ans. Le premier congrès qui a eu lieu, c'était en 1893 à Chicago. En fait, là aussi, ce n'est pas vrai, parce qu'officiellement, le premier a eu lieu en 1897, mais cependant, à Chicago, un groupe de mathématiciens autour de Félix Klein avait décidé de créer cette rencontre. Et la première rencontre officielle était à Zurich, avec une idée de le faire tous les 4 ans. Et quand on fait une règle, on les brise tout de suite, parce que le premier congrès a eu lieu 3 ans après, en 1900, lors du congrès international, lors de l'exposition universelle à Paris. Et je pense, en quelque sorte, c'est le congrès que tout le monde connaît, tous les mathématiciens connaissent très bien, probablement, parce qu'il y a eu les problèmes d'Hilbert qui ont été posés à ce moment-là aussi. Et dont le président, d'ailleurs, était Henri Poincaré, qui était à ce moment-là le grand chercheur en mathématiques et en physique en France et à Paris. Alors commençons avec une première question. Donc Cédric, ça fait 4 ans que tu as reçu la médaille Fields. Alors qu'est-ce que ça fait obtenir la médaille Fields? Est-ce que ça a changé ta vie en quelque sorte?
Oui Christophe, merci pour la question. Il y a 4 ans, quand on me posait la question sur les plateaux de télévision, je disais il est trop tôt, on verra bien. Et 4 ans plus tard, je peux dire oui, ça a changé ma vie, sans doute possible. Il y avait avec la médaille Fields bien au-delà de ma trajectoire professionnelle, un tremplin en termes social, en termes médiatiques, qui a pris des proportions considérables et qui m'a permis aussi d'accomplir des opérations de type communication, des opérations de type avancement de projet qui auraient été impossibles sans la médaille FIZ. Il est classique que les gens dans la rue, dans les transports, m'abordent, viennent discuter de mathématiques ou me dire qu'ils n'y comprennent rien mais qu'ils sont très heureux de m'entendre en parler ou qu'ils veulent absolument que je vienne faire un exposé chez eux, dans leur école, dans leur université, dans leur entreprise ou qui sait quoi. Et on se rend compte, ça a été là, très grosse leçon que j'ai tirée de ces années, à quel point tout le monde aime les chercheurs, quand ils s'expriment, et souhaitent les voir prendre davantage de place dans l'espace public et dans la communication. Et au fur et à mesure que je voyais ça, je me suis souvenu aussi de ce que disait John Nash. John Nash, c'est un de mes héros mathématiques. J'ai la plus grande admiration pour ce qu'il a fait, pour ses travaux en particulier sur la régularité des équations dérivées partielles. On sait bien qu'il n'a pas eu la médaille Fields, même si ce qu'il a fait était nettement au-dessus de ce qu'il suffit d'avoir pour obtenir la médaille Fields. Je dis ça avec un peu d'ironie. Et il n'a jamais digéré. Et il a dit, longtemps après, ça aurait changé ma vie. Alors, je lis ça, je me dis quand même, Nash, il exagère. Tout le monde le connaît, c'est l'un des très rares scientifiques vivants à avoir été le héros d'un film hollywoodien. Comment il peut dire ça ? Mais une fois qu'on est dedans, on se rend compte à quel point il y a beaucoup d'attente et de potentialité qui est cachée derrière ce simple prix. En extérieur de la communauté, beaucoup plus qu'en intérieur. En intérieur, ça ne change pas grand-chose. Les gens, ils vous connaissent pour vos travaux avant, après, le fait d'avoir la médaille, ça ne change rien à la qualité de vos travaux.
Merci beaucoup. Effectivement, John Nash est un très bon exemple parce que le film a quand même eu beaucoup de répercussions dans le grand public. D'ailleurs, il y a eu un film auquel tu as participé, Comment j'ai détesté les mathématiques, qui a été aussi beaucoup projeté. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir. Le titre est un peu trompeur peut-être, mais quand même... Donc Arthur, alors pour toi, ça fait effectivement maintenant pas 4 ans, mais 4 semaines, peut-être presque 8. On était tous à Séoul au moment où tu as reçu la médaille. Peut-être tu pourras nous raconter un peu tes premières impressions. Est-ce que ça a changé déjà ta vie de tous les jours ou comment ça se passe quand on reçoit la médaille Fields?
Bon, tout de suite après l'événement, évidemment, il y a une... On ne peut pas faire la même chose qu'on avait envie de faire parce qu'il y a un peu de pression pour s'exprimer sur, aux médias, par exemple. Donc, c'est de ça que je peux parler sur mon expérience. Et pour moi, il y a les côtés où c'est en France où il y a toujours cet intérêt qui a, je crois que c'est bien plus que dans d'autres pays comme les États-Unis, c'est mon impression, c'est une caractéristique assez intéressante en France qu'on donne autant d'importance à un prix mathématique comme ceci. C'est pourquoi ça ne se fait pas dans d'autres pays, je ne sais pas. Et au Brésil aussi. Donc, je dois... Pour les Brésils, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'essayer de profiter de cette occasion pour que ça puisse aider à avancer un peu les maths au Brésil, qui sont en bonne voie, mais où ce n'est pas gagné, qui ça continue à se développer dans la bonne direction. Donc je vois pour un certain temps, et disons au moins pour 4 ans, parce qu'on aura à Rio de Janeiro le prochain congrès international de mathématiques. Donc en sachant ça, je vois comme à peu près une obligation de rester un peu présent, dans mes possibilités, parce que je n'ai pas de compétences particulières pour ce genre de choses, mais pour aider un peu à que pendant 4 ans, ça reste au plus dans l'imaginaire collectif, les mathématiques, avec ce début avec ces prix, parce que pour le Brésil, c'était une première fois, et en imaginant que dans 4 ans, on aura un grand congrès et voilà, donc je peux imaginer que pour 4 ans au moins, j'aurai un peu ce genre de responsabilité.
Il est vrai que le prochain congrès international est au Brésil, donc c'est dans 4 ans. Maintenant, après Séoul, quand je suis revenu en tant que directeur de l'Institut de maths, on me dit, alors Christophe, mes collègues me demandent, mais comment ça se fait que les maths sont aussi bons en France, hein? Donc c'est une question qui est récurrente, les journalistes la posent, mes collègues, ils me disent, mais dis-moi quel est ton secret, et puis...
Les collègues jaloux.
Donc, Cédric ou Arthur, est-ce que vous avez des idées, des opinions ?
Ça sera intéressant d'entendre ce que pense Arthur mais sur la question. Mais d'abord, je vais rebondir sur ce que disait Arthur à l'instant, sur le fait qu'en France, il y avait un buzz particulier sur ce genre de choses. Il est certain qu'en France, l'intellectuel est toujours écouté. Certains se lamentent de ce que la voix de l'intellectuel ne porte plus assez dans l'espace public, mais s'ils vont aux États-Unis, par exemple, ils verront que la situation là-bas est une toute autre échelle que ce qu'on peut voir en France. Donc l'intellectuel est toujours écouté, il y a un grand prestige toujours qui est associé à ça, et en particulier en mathématiques. Il y a longtemps, il y avait ces classifications à la Comte et autres sur les différentes disciplines, et on a l'habitude de mettre en France la mathématique au sommet. Et c'est resté dans l'esprit de beaucoup de gens, même ceux qui trouvent ça détestable, qui n'ont aucune sympathie pour la mathématique, ils ont en tête que quand même, c'est la plus illustre et la plus respectable des disciplines. Et pourquoi en France particulièrement ? À mon avis, on ne peut pas faire économie de plusieurs choses. La première, c'est le poids de l'histoire qui fait que, à un moment, au XVIIIe siècle, quand il y a eu la Révolution des Lumières qui est partie de France, elle a eu un impact considérable au niveau mathématique. Et au XVIIIe siècle, fleurissent des légions de mathématiciens français de très grande valeur, qui ont su prendre le tournant avec la Révolution française. La Révolution française est arrivée avec beaucoup d'idéaux, besoin de faire des choses absolues, de redéfinir les unités, de redéfinir la mesure du temps et de l'espace, de mettre en place, de réformer et tout. Et il y avait plein de missions à donner aux mathématiciens. Et est arrivé ensuite, par coïncidence, Napoléon, notre dirigeant mathématicien, en tout cas de très loin le plus mathématicien qu'on ait jamais eu, qui a encore fait tout ce qu'il pouvait pour favoriser la discipline. Et on est toujours resté, on va dire, dans ce flux initial, de dire la masse de savants mathématiciens qu'il y avait en France, à Paris tout particulièrement, a continué à s'entretenir, faire des petits, peut-être jusqu'au désastre de la Première Guerre mondiale, qui a été le seul moment où vraiment la position de la France a été battue en brèche sur la scène internationale. Ça, c'est la question de l'histoire. Donc, en résonance avec au démarrage, l'époque des Lumières. Et puis, très clairement, il y a aussi une question qui va avec d'esprit et de culture française. Quand mes collègues étrangers me posent la question, parce qu'ils posent aussi « qu'est-ce qui se passe avec vous, les Français ?», je leur dis « écoutez, en mathématiques, il s'agit de chercher les vérités ultimes, les plus abstraites possibles, et d'expliquer au monde entier quelle est la solution ? » Évidemment, c'est les Français qui font ça dans tous les domaines. Chercher les lois ultimes et les montrer au monde entier, persuadés qu'ils ont raison.
Arthur, avec une vue peut-être un peu brésilienne ou davantage brésilienne.
Oui, je devrais dire la question de la tradition du fait qu'il y avait il y a une histoire des mathématiques, ça renforce à chaque fois, donc ça attire d'autres mathématiciens. Pour moi, c'est évident, je suis venu en France en particulier, j'avais des contacts aux États-Unis à la fin de mon doctorat, mais j'avais aussi en France parce qu'il y avait ici une grande école de système dynamique, et donc c'est cette existence qui s'autoalimente. Quand on a déjà un domaine bien développé, c'est naturel que ça attire des gens des dedans et aussi des dehors qui vont venir augmenter encore cette école. Donc il y a ces côtés-là. J'imagine quelque chose que pour moi, je me pose la question par exemple souvent, pourquoi j'ai commencé en maths, etc. Il faut que ça soit quelque chose de valorisé dans plusieurs niveaux de la société. C'est certainement une caractéristique ici que je vois peut-être au niveau aussi du processus de sélection. C'est quelque chose que Au moins, parce que dans d'autres pays, par exemple, on peut prendre contact avec les maths à travers de diverses façons. Par exemple, les programmes d'Olympiade des mathématiques qui marchent très, très bien dans des pays de l'Est ou dans plein de pays du monde, y compris le Brésil. Et c'était comme ça pour moi, qui m'a aidé à faire la transition vers les études des maths. Et ici, il n'y a pas ça. Donc, je suis toujours en train de me demander pourquoi il n'y a pas cette culture ici et pourquoi ça ne cause pas de problème hein, spécial. Comment ça se fait d'où viennent une grande partie de ces chercheurs? Et j'imagine que j'ai compris ici qu'il y a un processus de sélection très basé sur les maths, qui fait que les étudiants étudient des maths assez difficiles à un niveau que les étudiants la plupart des étudiants des autres pays ne les font pas. Et être exposé à des maths de bonne qualité, ça va pour la partie qui ont des étudiants qui ont une vocation pour cela, puis montrer que c'est quelque chose qui les intéresse, comme pour les Olympiades. Être exposé au problème de l'Olympiade, ça, pour beaucoup d'étudiants, ça va être juste un jeu. Pour d'autres, ça ouvre la possibilité de vraiment d'étudier à fond ça. Et c'est ça, donc les gens sont exposés parce que peut-être malgré eux, ils doivent faire ça pour aller où ils pensent qu'ils veulent aller. Et en rencontrant les mathématiques, ils décident de peut-être choisir cette carrière.
Ouais, moi je vais confirmer ce que dit Arthur. J'ai jamais fait moi d'Olympiade, ni même le concours général, et c'est simplement le système qui m'a poussé et fait avancer. Oh, j'aime bien les maths, bah, je vais continuer. Oui, bah, je vais continuer encore. Et puis après, ah bon, classe préparatoire, ok. Et puis après, pour approfondir, l'école normale supérieure semblait le plus indiqué. Ok, je suis à l'école normale supérieure, mais jusqu'à ce moment-là, je m'étais jamais vraiment posé de questions, on va dire. Je m'étais contenté de suivre le flux et le processus. Et dans une certaine mesure, ça marche. Ça marche aussi parce qu'il y a tout un ensemble d'institutions. Alors, évidemment, système des grandes écoles en mathématiques n'est pas étranger au succès international. Je ne suis pas en train de dire que seules les grandes écoles sont importantes, loin de là, et je suis moi-même professeur en université, à l'université de Lyon en l'occurrence, mais en termes de catalyseurs des plus motivés, les grandes écoles jouent un rôle considérable et toutes les médailles Fields françaises, sauf Arthur en particulier, sont passées par l'École normale supérieure, qui est de ce fait l'institution dans le monde qui a vu défiler entre ses murs le plus de médailles Fields. Alors, pour continuer sur les institutions, il y a aussi le fait que le milieu de la recherche mathématique français, il est extrêmement structuré. Il est structuré localement par des règles que se fixent les chercheurs et globalement, en particulier par l'action du CNRS. Je pense que c'est la discipline dans laquelle on est les plus enclins à reconnaître le CNRS comme une autorité qu'on va suivre. Je vois Christophe qui est un peu gêné et qui baisse les yeux, mais c'est vrai. Et on est tous très attachés à ce rôle coordinateur du CNRS. L'aménagement du territoire est bien pensé. Je suis un exemple idéal de quelqu'un qui a fait sa carrière dans le mouvement entre Paris et Lyon, et le fait que j'ai passé à l'École normale supérieure de Lyon 9 ans a joué un rôle déterminant dans la formation de mes intérêts scientifiques et de ma production mathématique. Et puis il y a tout un ensemble d'habitudes prises au niveau des chercheurs, du style on évite le recrutement local autant que possible. On est attentif à développer telle et telle discipline, attentif à pas laisser se créer des chapelles et des spécialités, mais à permettre aux jeunes de bouger, qui fonctionne bien.
Effectivement, donc merci Cédric, ça donne de la responsabilité à l'Institut de maths au CNRS. Il y a une petite remarque que je voudrais faire, ça un peu en résonance ce que dit Arthur vis-à-vis de l'internationalisation de la discipline, mais en fait toutes les disciplines, parce qu'il n'y a pas de recherche qui ne soit pas internationale au temps actuel. Et donc, je voudrais peut-être faire une remarque, parce qu'il n'y a pas qu'une seule médaille qui a été donnée, il y a eu quatre médailles. Donc, il y a aussi il y a une observation, c'est-à-dire qu'aucun des quatre médaillés ne travaille dans le pays où il est né. Donc il y a Manjul Bhargava qui est canadien, mais qui travaille aux États-Unis, mais il a des origines indiennes. Martin Herrer, qui est autrichien comme moi, qui est à l'université de Warwick. Et on a eu une première fois, et c'est, je pense que c'est tout à fait notable, une femme qui a eu la médaille Fields, Mariam Mirzakhani, qui est iranienne, d'origine iranienne, qui a fait jusqu'à la licence incluse son parcours en Iran avant de devenir professeur à l'université de Stanford. Et je pense que pour l'Iran, cette médaille était aussi très importante. Donc on a vu en particulier un tweet du président d'Iran montrant une photo de Mariam Mirzakhani sans le foulard obligatoire. Donc c'est un signe très important, je pense, à la fois pour les mathématiques, mais aussi pour le pays qui a été très visible et qui montrait aussi la grande fierté de ce pays pour cette fille qui leur a apporté autant de succès dans le domaine des mathématiques. Alors, pour le Brésil, Arthur, donc, je pense que la première médaille brésilienne, vraiment, et je crois que c'était une très grande joie à Rio de Janeiro au moment où tu as reçu ta médaille.
Oui, c'est quelque chose de certainement spécial pour le Brésil parce qu'on n'a pas une tradition non pas la même tradition que la France en recherche là-bas. Je vois que c'était même un problème. C'est quelque chose d'intéressant que les Brésiliens se posent souvent la question, est-ce que les Brésiliens qui ne sont pas dans le milieu de recherche, est-ce qu'on peut faire des maths au Brésil ou est-ce qu'on peut faire de la science de haut niveau au Brésil? C'est une question que les gens qui ne sont pas en science peuvent se poser. Et ça peut être très important pour, j'imagine, pour que les gens décident ou décident de ne pas faire de la science ou des mathématiques. Je sais que moi, j'ai choisi finalement, après les Olympiades, de faire des mathématiques parce que j'étais en contact déjà, à travers les Olympiades, avec l'INPA. Donc j'ai vu une institution qui marchait avec plusieurs mathématiciens excellents, de niveau visiblement international. On rencontrait aussi, il y avait des échanges internationaux, on rencontrait des médailles Fields, par exemple, assez facilement, juste en y allant. Donc, il y avait toutes ces caractéristiques-là. Mais moi, j'étais exposé à cela parce que j'allais aux cérémonies des prix des Olympiades. C'est important que tous les Brésiliens soient exposés au fait qu'il y a des choses de grand niveau qui se passent au Brésil. Ce n'est pas quelque chose de très répandu dans toutes les directions, même des maths. Mais au moins, quand on se focalise, on peut y arriver. Donc, être une preuve de que ça soit vrai, ça peut servir à motiver et peut-être à mettre un peu plus de gens dans cette direction. Donc ça, c'est peut-être la conséquence la plus importante pour les Brésiliens. Est-ce que ça aura d'autres... C'est un peu plus difficile à dire qu'est-ce qui va se passer sur les niveaux de l'éducation, parce qu'on a beaucoup de difficultés, plus de bases là-bas. Donc, on arrive à faire des choses au très haut niveau parce que ça n'intervient pas beaucoup d'argent, ça n'intervient pas une très grande organisation, un spécial en maths qui ne dépend pas de beaucoup d'argent, évidemment. On ne dépend pas de beaucoup des grands laboratoires. Et, les gens travaillent souvent relativement isolément avec des petits groupes ou... Donc, il y a des caractéristiques particulières. Et pendant que les problèmes de l'éducation, c'est quelque chose de bien plus compliqué à régler. C'est un pays énorme avec des problèmes structurels depuis longtemps. Mais on a un petit espoir que ça sert un peu à la motivation. J'ai lu des infos où il y avait beaucoup plus de monde qui s'intéressait aux maths au niveau de la licence, etc. Donc, il y a plein de carrières qui pourraient être positivement... touché par cela. Mais on verra, hein. C'est trop tôt pour les dire.
Oui, après, il faudra sans doute un peu de recul. Quand on parle de votre domaine, qui est aussi une force au Brésil, le système dynamique, on pense à nouveau à Henri Poincaré, parce qu'on va revenir là-dessus. Est-ce que vous voyez une continuité donc entre tes travaux, Arthur, et les travaux de Henri Poincaré?
Henri Poincaré, c'est sûrement un des fondateurs des systèmes dynamiques. Hein. Donc, c'est que c'est passé historiquement. À l'INPA, on raconte toujours la même histoire à travers Jacob Alice qui vient avec son histoire sur l'erreur de Poincaré. Donc il connaît une erreur de Poincaré assez féconde, c'est comme ils le disent. C'était à peu près un étude de mécanique céleste. Il avait écrit une mémoire pour rapporter un prix suédois, du roi Oscar, j'imagine. Et en les faisant, il faisait des avancées formidables sur la mécanique céleste. Et au moment où, je ne sais pas, il continuait à continuer à étudier ça après qu'il avait gagné les prix, et il a remarqué qu'il avait fait une erreur. Les choses étaient plus compliquées que ce qu'il imaginait. Et selon on dit, ça lui a coûté de l'argent parce qu'il a dû, il a demandé qu'on retire de circulation ce qui était déjà imprimé, que c'était son mémoire. Et, je ne connais pas les détails de cette histoire, donc apparemment il a dû payer pour cela. Donc je ne crois pas que les prix lui rapportaient de l'argent à la fin. Mais donc lui, il a découvert en effet que les systèmes dynamiques étaient bien plus compliqués qu'ils imaginaient. Donc on était à l'époque à la recherche d'une description assez simple sur les longueurs, donc sous les modèles Newton. Donc on a une planète qui circule autour du Soleil, mais les choses ne vont pas différer beaucoup de cela. Et donc les recherches de l'intégrabilité, il a découvert que ça pourrait être des choses bien bien plus compliquées. Donc ce qu'il a découvert, c'était l'existence de, disons, on appelle des points homoclines, qui c'est quelque chose que, selon sa description, c'est difficile de décrire, mais lui-même, il a dit qu'il allait essayer de tracer un dessin, et il a découvert qu'il n'arrivait pas. C'était bien trop compliqué pour que lui, il l'efface. Et donc, je ne vais pas essayer de l'exprimer un mot pour la radio. Ce qu'il avait réussi, c'est pas même à décrire dans son mémoire. Donc, il a découvert ça. Et ça, après, a été un peu mieux compris par Smail, bien, bien longtemps après. Donc, c'est encore dans cette trajectoire. Il a découvert les fers à cheval, selon on dit, sur les plages de Rio. Et il visitait déjà à l'époque les débuts de l'IMPA et il a fait cette découverte qui explique un peu ce qu'étaient ces phénomènes découverts par Poincaré. Et on est toujours en train de découvrir des choses liées au point homocline, aux bifurcations homoclines. Je pourrais dire qu'il y a une continuité assez naturelle de ce que je viens de décrire aux attracteurs de noms, aux dynamiques d'application quadratique, ce qui était le sujet, par exemple, de ma thèse, et de toutes les dynamiques qu'on étudie maintenant.
Oui, effectivement. Donc, c'est une vraie continuité. Cédric, pour toi.
Oui, j'avais commencé par compléter ce que disait Arthur, qui a raconté la belle histoire d'Henri Poincaré. Effectivement, c'était pour répondre au prix Oscar de Suède. Et c'était Mitta Gleffler, le grand complice suédois de Poincaré, qui avait fait ce concours. Et Mitta Gleffler, effectivement, a réussi à récupérer tous les exemplaires de la revue Acta Mathematica dans laquelle étaient publiés les résultats de Poincaré, et il les a placés au pilon, sauf deux ou trois qui sont toujours conservés dans l'Institut Mitta Gleffler en souvenir. Il les a passés au pilon et Poincaré a payé tous les frais, ce qui lui a coûté plus que ce que lui avait rapporté le prix du roi Oscar de Suède. On aime bien les histoires, justement, quand elles comportent des erreurs comme ça. Elles montrent tout ce que Poincaré avait d'humain, de faillible, comme tout le monde, hein, alors que c'était le plus grand mathématicien de son époque, très certainement. Alors, pour continuer sur Poincaré, moi, je retiendrai pas tellement l'aspect système dynamique, mais sa volonté de développer la physique mathématique dès le départ, ses travaux sur des équations liées à la théorie du potentiel, par exemple, liées aux équations du télégraphe. Il a esquissé des programmes assez visionnaires, Poincaré, au début du XXe siècle, sur ce qu'allait devenir l'étude des équations aux dérivées partielles, telle qu'elle allait se développer dans les décennies à venir. Et donc, Poincaré, en fait, comme il a travaillé sur tout, à peu près n'importe quel mathématicien peut lui trouver une connexion avec Poincaré. C'est pas pour rien précisément que quand on a fondé dans les années 1920 cet institut dont tu parlais tout à l'heure à Paris, on l'a appelé Institut Henri Poincaré parce que c'était le rassembleur. Et outre le fait qu'il était le père spirituel de certains points de vue de Borel et surtout de Birkhoff, qui était à l'origine du projet scientifique, Poincaré avait ce côté rassembleur de toute la communauté scientifique. Il connaissait toutes les mathématiques, mais aussi était physicien, était ingénieur, il s'intéressait à tout. En plus, il était bien connu comme philosophe, tout le monde le connaissait. Il avait ce côté universel qui était très bien. Alors, il y a un autre aspect de Poincaré dans lequel je peux me reconnaître, c'est justement son importance qu'il attachait à communiquer sur sa discipline, en particulier auprès des enfants. Poincaré a écrit des textes de science, il a participé à des ouvrages de science expliqués à des enfants dans une démarche qui apparaît toujours aussi moderne. Alors à l'Institut Poincaré, on s'occupe de plusieurs choses, mais d'abord et avant tout, on s'occupe d'animer de la recherche mathématique par le contact entre des invités qui viennent d'un peu partout sur des thématiques qui sont renouvelées. On s'occupe aussi de soutien logistique aux associations de promotion, aux institutions de promotion de la mathématique française, comme les sociétés savantes. Et puis, on s'occupe aussi de communication auprès de tous les segments de la société. On est associé, pour prendre juste un exemple encore lié au concours de type Olympia, on est associé pour la deuxième année, on s'associera au concours Kangourou pour les remises des prix, pour que les lauréats de ce concours dans les écoles puissent justement avoir une cérémonie dans laquelle ils rencontrent médailles filles et tout ce qu'on veut. On a parrainé la republication d'une série d'ouvrages de vulgarisation initiée en Espagne avec un gros succès. On a fait vendre 500 000 d'exemplaires, quelque chose comme ça. On était associé aussi au film dont tu parlais tout à l'heure et à toutes opérations de manière générale destinées à renforcer le contact entre les chercheurs et la société. Et en ça, on s'inscrit aussi dans la tradition de Poincaré.
Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on disait les 20 ans de l'Institut Henri Poincaré, donc le 17... octobre, donc pourquoi 20 ans? Qu'est-ce qui s'est passé entre 1926 et maintenant
Alors, il faut dire que les mathématiciens, souvent, ils ne savent pas bien compter, contrairement à une réputation tenace. Mais même si on a été fondé une première fois dans les années 1920, il y a eu un deuxième épisode de fondation. D'abord, il y a eu un abandon relatif. C'était dans la foulée de mai 68, au moment où l'université parisienne explose et où l'Institut Poincaré, qui servait de base de formation à la mathématique de la faculté de Paris, perd son utilité et se retrouve désaffecté de sa présence mathématique, à l'exception de la bibliothèque, pendant quelques décennies. Et puis à la fin des années 80, début des années 90, la communauté mathématique et physique décide de se réemparer du lieu. Et après un certain nombre de discussions, refonder ce lieu, 1994, c'est la date donc de cette deuxième inauguration, dans laquelle l'Institut est rendu à son rôle premier, mathématique et physique théorique, dans un contexte institutionnel qui a complètement changé, un rôle qui s'est adapté à la nouvelle donne de l'enseignement supérieur, et où il va s'agir non plus de dépendre d'une université parisienne unique, mais d'être au service de l'ensemble des universités, des laboratoires de recherche à Paris et en France. Alors il a une double tutelle, universitaire via l'université Pierre et Marie Curie et CNRS, bien sûr, et l'important est que c'est un lieu qui est considéré comme un bien commun qui sert de plateforme, d'hôtel dans lequel tout le monde peut organiser ce qu'il lui souhaite, pourvu que la qualité soit au rendez-vous.
Donc effectivement, je me souviens, je crois que tu parlais des trimestres, des grandes rencontres entre mathématiciens d'une même discipline. Je me souviens très bien, je crois que le deuxième trimestre a été dans mon domaine de la géométrie algébrique et c'était vraiment un moment clé pour nous. Il est vrai que l'Institut Henri Poincaré, tout comme le CIRM qui organise des rencontres hebdomadaires à Marseille, sont vraiment pour nous, CNRS, des instruments très précieux parce que la recherche en mathématiques, elle fonctionne comme ça. C'est comme ça que nous travaillons, nous discutons, travaillons et puis nous avançons en discutant ensemble.
Le 17 octobre, on fêtera ce 20e anniversaire avec une journée dans laquelle viendront s'exprimer des institutionnels, ministres, président du CNRS, directeur de mathématiques au CNRS et tout ça, mais aussi certains des acteurs historiques. de cette reconquête, ceux qui étaient aux manettes et qui ont fait mûrir le projet en 1994 pour que l'Institut soit rendu à ses fonctions premières avec des moyens accrus. En particulier Michel Demazure, l'auteur du rapport qui a convaincu le gouvernement de l'époque qu'il fallait réaliser cette opération scientifique très structurante. Et puis ce sera aussi le jour du lancement d'un ouvrage sur lequel on travaille depuis plusieurs années, un ouvrage qui s'appelle « La maison des mathématiques », édité au Cherche Midi, dans lequel nous présenterons en texte et en image ce que c'est la vie d'un institut de recherche mathématique aujourd'hui, en 2014, pour tous ceux qui seraient curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, même point de vue physique, est-ce qu'il y a des grands écrans, ou est-ce que les gens sont occupés devant des tableaux noirs, est-ce qu'ils discutent ou est-ce qu'ils travaillent dans leur coin, à quoi ça ressemble. Et il y a un beau reportage photo, on peut dire, réalisé par Vincent Moncorgé pendant plusieurs années sur cet institut, qui met en lumière tous ces échanges et aussi tous ces espoirs et toute cette tension qu'il peut y avoir dans les échanges. Vous avez le regard du conférencier inquiet après avoir fait son exposé en se demandant quelles vont être les questions, à quelle sauce il va être mangé par ses pairs. Vous avez toute l'intensité du regard qu'échange le maître et l'élève en train de discuter devant un tableau noir sur tel ou tel concept. Tout cela sera présent et expliqué.
Alors justement, quand on parle des photos, de l'activité de mathématiciens, je pense que ces dernières années, ça a beaucoup changé. Ces 20 dernières années, même 30 ou plus, on a vu une vraie préoccupation pour les interactions avec d'autres disciplines. Bien entendu, c'est de l'histoire ancienne, parce que même les Grecs déjà utilisaient la mathématique essentiellement pour calculer des choses très concrètes. Et puis à Séoul, on a vu un exemple que j'avais trouvé extrêmement intéressant sur l'utilisation de la statistique, particulièrement les matrices creuses, pour une application tout à fait étonnante. Cédric, tu as vu cet exposé, on parlait de IRM, justement, de l'imagerie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail?
C'était le français Emmanuel Candès, un poste à Stanford, qui faisait cet exemple absolument remarquable devant ses collègues ravis, et donc nous raconter comment ses recherches en statistique, en intelligence artificielle, avaient des applications remarquables. Et à la fois, c'était étonnant mathématiquement et important du point de vue d'applications médicales en l'occurrence. Et donc, une IRM, qu'est-ce que c'est ? Une IRM, ça fait partie de ces centaines d'opérations de tous les jours. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on prend une IRM, mais c'est en tout cas un objet qui est devenu familier dans la médecine moderne, qui repose sur un principe mathématique, même si on n'en a pas conscience. Dans une IRM, vous avez une exploration à l'aide de rayons qui réalise une image qui s'apparente à une transformée de Fourier. Il s'agit d'inverser une transformée de Fourier en termes techniques pour reconstituer l'image à l'intérieur de votre organisme, l'image des organes. Et c'est une opération qui, à l'heure actuelle, demande encore un certain temps. Et il s'agit de, typiquement, pour avoir toutes les informations, environ 2 minutes pendant lesquelles le patient doit rester complètement immobile. 2 minutes pour un petit enfant un petit enfant malade sans respirer, ça peut être un vrai danger. Et ce que nous montrait Emmanuel Candès, c'est comment, lors d'une collaboration avec des médecins, il avait pu mettre à profit son expertise en reconstitution d'informations manquantes pour ramener ce temps de 2 minutes à 15 secondes avec des avantages évidents. Et ce que montrait Emmanuel Candès dans ses travaux avec divers collaborateurs, dont Terence Tao, c'est que le plus souvent, pour reconstituer une image pertinente, vous avez besoin de beaucoup moins que la totalité de l'information. Dans certains cas, même avec seulement 2% de l'information, 2% des données, vous arrivez à reconstituer toute l'information utile. C'est bien dans des exemples comme ça qu'on voit l'un des drames du monde actuel où l'information est perdue dans les données et votre problème, c'est d'arriver à rechercher l'information qui compte. Et c'est le même problème dans ces problèmes de matrice creuse qui apparaissent typiquement dans les problèmes de préférence en marketing, par exemple. Vous avez des informations très, très partielles sur les préférences des clients et vous voulez reconstituer l'ensemble. Et bien là, Candès montrait comment, à partir d'une information très partielle, pas plus de 10% des données dans la transformée de Fourier, on arrive à reconstituer une image des organes qui n'est en aucune manière moins précise que celle qui permet au médecin de se repérer, de prévoir son opération à partir des données complètes.
En tout cas, quand on voyait ça, premièrement, l'utilité est évidente, 1550, c'est faisable. Et, ils ont pu réaliser donc, des scans qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc c'est vraiment un progrès, c'est magique. Quand on voit le fonctionnement d'une matrice qui se remplit elle-même avec les bonnes valeurs, donc il nous a montré ça. En fait, parfois on dit les choses, les discussions, enfin les théorèmes sont magiques et parfois les applications sont réellement magiques. Il y a un autre exemple qui date de l'Antiquité, quand quelqu'un, à l'époque, on ne se posait pas la question si la Terre était plate ou ronde, on savait qu'elle était ronde, mais on se posait la question comment je fais pour calculer sa circonférence. Je crois que j'ai vu que tu avais
Il n'y a pas longtemps, j'évoquais cet exemple dans une journée qu'on organisait avec l'incubateur Incuballiance sur le plateau de Saclay. Donc, c'était une journée entièrement consacrée au thème mathématique et entrepreneuriat. Start-up, et on a vu quelques orateurs extrêmement affûtés dans cette partie-là, des gens comme Stéphane Mallat, David Bessis, qui nous parlaient de leurs expériences heureuses, réussies et passionnantes de prise avec le monde de l'entreprise, de création d'entreprise. Et dans l'exemple d'Ératosthène, moi, j'aimais bien commencer par là, d'abord parce que c'est l'un des cinq grands mathématiciens de l'Antiquité grecque, ceux qui ont donné le ton pendant des millénaires en termes de références culturelles. Et avec Ératosthène, on voit bien comment, avec un calcul mathématique, on peut changer la représentation qu'on a du réel. Et Ératosthène, aussi, on voit comment dans sa démarche, ce qui est le plus important, ce n'est pas la technique mathématique, mais c'est le fait de sentir, d'avoir l'intuition. Là, voilà l'information qui va me permettre d'utiliser le bon outil. En l'occurrence, Ératosthène avait appris que le soleil, un certain jour de l'année, se reflétait exactement à la verticale dans un certain puits. Et il en a déduit, avec des mesures et l'application de règles élémentaires de trigonométrie, une mesure de la circonférence de la Terre. Le calcul était malin. Le calcul d'Ératosthène était précis avec une erreur de moins de 2%. Hein. On dit que si Christophe Colomb avait fait confiance à Ératosthène, il n'aurait jamais pu confondre les Amériques avec le continent asiatique. Et ça, c'est un des exemples anciens extrêmement marquants qui montre que, en combinant une certaine dose de technologie mathématique avec la bonne intuition, on arrive à des résultats qui changent. On ne va pas dire que ça change votre vie de tous les jours de connaître la circonférence de la Terre, mais quand même, ça change ce qu'on sait, ce qu'on voit du monde qui nous entoure, littéralement. Et ça nous rappelle que la mathématique, ça a été créé pour résoudre des problèmes du monde qui nous entoure.
Alors justement, Arthur, pour obtenir la médaille Fields, il faut avoir moins de 40 ans. Pourquoi ? L'idée sous-jacente était que c'est un départ. Donc, il ne s'agit pas de consacrer une fin de carrière ou une carrière totale, mais il s'agit en quelque sorte d'honorer un début de carrière fracassante et qu'une des questions qu'on peut se poser après, c'est aussi une question qui a été posée lors des dernières fondamentales, celle de l'année dernière à Paris, cette année c'est à Grenoble. Que reste-t-il à découvrir, Arthur, pour toi maintenant que tu es revenu ici, quelles sont tes découvertes à venir ou quelles sont tes idées, ce que tu souhaites poursuivre plus précisément?
Moi, je n'aime pas trop penser à des projets futurs grandioses en général parce que je les vois surgir de façon beaucoup, bien plus naturelle. Comme on a notre travail du jour à jour où on étudie, essaie de comprendre un peu mieux les choses qui sont... On a des petits problèmes à côté, on les regarde et on a déjà du mal à voir bien ce qui se passe. En général, un système dynamique, sûrement. Donc, même dans des systèmes très simples, on va travailler sur quelque chose de très petit et c'est déjà très compliqué pour dire la moindre chose. Et c'est en faisant ce travail-là, les jours au jour, qui quelquefois on découvre quelque chose qu'on peut reconnaître comme utile dans un contexte différent. Donc c'est souvent pas en regardant directement sur les gros problèmes qu'on va découvrir les choses. Parce qu'en regardant, disons, ailleurs, on découvre d'autres objets mathématiques d'abord dans ce contexte-là, peut-être simplifié, etc. Ces objets deviennent les sujets de la recherche et ils peuvent être découverts comme ayant une liaison avec quelque chose d'autre qui était reconnu auparavant comme assez important. Je vais pas essayer de donner beaucoup d'exemples, mais il y a ces faits-là que j'ai jamais réussi à prévoir 5 ans en avance où j'essaierai dans 5 ans. Donc c'est ça. Je pense vraiment que j'espère qu'au moins au niveau de recherche, sinon, comme j'ai dit pour la question d'exposition médiatique, etc., au niveau de comment je fais la recherche, j'espère que cette médaille ne change rien pour moi. Donc, il y aura une continuité de la façon dont je fais des maths. Donc, je vais continuer à essayer de comprendre mieux les objets qui m'intéressent en ce moment et essayer d'être prêt à reconnaître quand ça pourra être utile pour d'autres problèmes importants, parce que je suis toujours en train de discuter avec plein de mathématiciens qui m'exposent des problèmes assez intéressants que je découvre qui sont aussi m'intéressent aussi, et être prêt à reconnaître quand des découvertes faites dans un endroit peuvent être utiles ailleurs.
Oui, effectivement, le mathématicien n'aime pas beaucoup dire à l'avance ce qu'il va démontrer parce qu'il ne le sait pas. Donc souvent, on travaille sur un sujet, on réfléchit, et puis c'est un autre sujet qui arrive et on voit ce qu'on est en train de faire, en fait, permet de résoudre cet autre sujet, sauf que l'année précédente, on ne le savait pas encore parce qu'on n'était pas encore confronté à ce problème-là. Donc c'est une réponse tout à fait habituelle pour un mathématicien, et ce qui n'est pas toujours très facile pour nous quand on écrit des projets, de dire à l'avance ce que nous allons faire avec un calendrier précis qui nous dit le 15 décembre, on aura démontré tel ou tel théorème, parce que tout simplement, on ne peut pas le savoir à l'avance. Justement, peut-être une dernière question avant de terminer, et je crois que c'est très important pour nous, parce que c'est le renouvellement de la mathématique pour le futur dans notre pays, aussi dans d'autres pays. Quel message on pourrait passer aux bacheliers ou aux jeunes étudiants, éventuellement, ou des élèves dans les collèges et les lycées? Pourquoi les mathématiques, ou quand on en fait, pourquoi on aime autant en faire, et comment peut-on en quelque sorte donner une motivation pour s'orienter dans un domaine qui est en plein développement?
Ouais, écoutez, Arthur et moi, on a l'air de bien se porter à faire de la recherche en mathématiques. En tout cas, j'ai jamais regretté de m'être lancé dans cette carrière. Et peut-être que Arthur, il a l'air de trouver ça bien aussi. Et de manière générale, la recherche, c'est un sujet dans lequel vous êtes dans une situation, en tout cas intellectuellement satisfaisante. C'est un sujet dans lequel vous êtes sans arrêt confronté à des surprises, à quelque chose de nouveau. Et puis, c'est un sujet qui ouvre beaucoup de choses. On voit beaucoup plus maintenant, et justement, c'était l'enjeu aussi derrière ce type de manifestation qu'on organise autour de l'innovation ou d'autres. On voit que chercheur, ça peut être une fin en soi, ça peut aussi être un tremplin vers d'autres carrières. Et métier de chercheur, une thèse en particulier, on sait que ça, rien que la thèse pour commencer la carrière de chercheur, ça développe beaucoup des qualités qui sont utiles dans toutes sortes de métiers, y compris être entrepreneur par exemple. Et mathématiques, c'est un bon sujet aussi parce que c'est un sujet qui croît actuellement en importance, en ampleur, en impact. Il n'y a pas longtemps, il y a une étude qui a beaucoup surpris, y compris les mathématiciens établis par le cabinet Deloitte pour l'Angleterre, qui estimait qu'il y avait une proportion forte importante, hein, quelque chose comme 16% du PIB anglais qui était directement dépendante de la recherche mathématique. Et première réaction, c'est l'incrédulité. Et puis, quand on regarde la méthodologie, on se dit finalement, c'est pas si idiot, et même, ça a l'air assez convaincant. Les disciplines mathématiques, dans leur ensemble, ont un impact actuellement qui est fort important et qui est en augmentation. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous motiver à vous lancer dans la carrière. Alors, pour beaucoup, ce qui va les motiver, c'est juste histoire de dire, bon, si vous aimez ça, continuez, approfondissez. Il y a vraiment de belles choses à faire.
Bon, sur ce qu'a dit Cédric, j'insisterai. Bon, pour moi, je suis plus motivé par. Je me sens pas très motivé par les applications et des choses comme cela. Donc, juste pour répondre, comment je me motiverai à cet étage-là? C'est que c'est important, c'est reconnaître ou chercher à connaître un peu de maths qui montre qu'il y a de la créativité là-dedans. Parce qu'on peut présenter les maths de plusieurs façons et ça peut paraître assez mort, assez dur, quelque chose avec des règles et ce sont juste des règles. Dans ces règles-là, ce sont les règles qui permettent d'être créatif. Parce qu'en mathématiques, c'est toujours, en faisant des maths vraiment, c'est juste la créativité. Il y a la partie mécanique, tout le monde sait le faire. Il n'a pas besoin d'être un bon mathématicien pour réussir ça. Donc la question, c'est que fait l'importance et c'est que fait la différence entre quelque chose qui aboutit ou qui n'aboutit pas, c'est la créativité. Cette créativité, bien sûr, elle dépend des règles. C'est ces règles-là qui permettent que ce soit une créativité qui n'est pas destructive. Donc, on est toujours en train de construire des choses qui vont rester parce qu'on suit les règles. Donc, il faut connaître ces règles-là. Mais savoir que les règles des maths ne sont pas là juste pour nous embêter et dire qu'il ne faut pas toujours faire comme ceci, comme cela. Quelque chose qui n'est pas très amusant, ne fait pas rêver, rien. Mais c'est exactement ça qui est caché et qui, si on fait un peu l'effort, on découvre que ça nous permettra d'être créatifs et sans peur. Donc, tant qu'on suit ces règles-là, on peut se lancer en utilisant des outils énormément complexes, un après les autres, à l'infini, sans avoir peur que ça va un jour s'arrêter de marcher. On n'a pas les contraintes de la réalité là. Donc, c'est comme ça, c'est beaucoup plus proche de quelque chose d'artistique qui est vraiment quelque chose des sciences dures, vraiment comme la physique, etc. Il y a des choses qui sont juste des approximations qui cessent de marcher à un certain moment. Hein. Et donc, reconnaître cela, ça peut donner un peu le courage aux gens de regarder un peu, étudier par soi-même et découvrir. C'est en découvrant cette partie-là que peut-être ils vont vouloir continuer. Ils ne peuvent pas dire que j'aime pas les maths parce qu'ils ne connaissent pas les maths souvent. Donc, c'est ça que j'insisterai plutôt.
Ouais, je crois qu'Arthur a tout à fait raison et je vais appuyer ce qu'il dit aussi en mentionnant que très clairement les deux sujets, sur les quatre dernières années, les deux sujets sur lesquels on m'a demandé le plus souvent d'intervenir, c'est innovation et créativité. Pour beaucoup de gens, précisément, interroger un mathématicien, c'est le moyen de se donner des idées en termes de créativité. Et donc, je souscris parfaitement à ce que disait Arthur, y compris sur les règles. Et puis, je vais terminer en citant Henri Poincaré comme il se faut. C'est par la logique que nous démontrons, mais c'est par l'intuition que nous découvrons. Un mathématicien qui ne connaîtrait que les règles serait comme un écrivain qui ne connaîtrait que des règles de grammaire.
Oh ben, merci beaucoup avec ce superbe mot de la fin. Et donc on va s'arrêter là. Et donc, merci.
Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.